C'est bien connu, l'eau est nécessaire à la vie. Mais commençons par quelques chiffres pour donner une réalité à cette affirmation. En effet, les océans contiennent 97% de l'eau présente sur la Terre et produisent la moitié de l'oxygène que nous respirons. Et une élévation de leur température et leur acidification liée à la pollution a forcément un effet néfaste sur le plancton et donc sur toute la chaîne alimentaire. Et au-delà de son rôle évident pour notre survie en tant qu'organisme, l'eau joue également un rôle important dans le développement de la société, notamment sur le plan économique, puisque le fret maritime représente 90% du commerce international de marchandises selon le groupe GEFCO. Et le fret maritime, est-ce que ça ne vous fait pas penser aux naufrages de pétroliers, aux marées noires ? Eh bien, les marées noires représentent moins de 5% des apports d'hydrocarbures dans la mer. Et pour un retour à la normale de la zone contaminée, il faut environ 5 ans. Et que dire des 8 millions de tonnes de plastique qui se déversent chaque année dans les océans, sachant que 95% des plastiques sont dans les fonds marins, et donc invisibles. Comment faire pour réduire cette pollution afin de maintenir cette ressource vitale que représente l'océan ?
Bienvenue sur Horizon IA, le podcast francophone de vulgarisation de l'intelligence artificielle. Je m'appelle Cintiche.
Et moi, Stéphanie. Nous sommes toutes les deux docteurs en traitement d'image et en apprentissage automatisé. Chaque semaine, nous vous proposons de découvrir une application intelligente avec un expert du domaine. Bonne écoute! Dans cet épisode, nous allons aborder les enjeux de l'intelligence artificielle au service de la dépollution marine avec Alan Fairbach, CEO de Videtix, et Éric Dupont, le CEO d'Ecopol. Ils se sont rencontrés via la Chambre de commerce de Nice et cela a été pour eux l'occasion d'une rencontre prolifique puisqu'ils ont des profils complémentaires. En effet, Éric est marin et il était en recherche d'un profil R&D pour développer une IA permettant de détecter la pollution maritime. Et il se trouve qu'Alan est de formation ingénieur en mathématiques appliquées. Bonjour Alan, bonjour Éric. Merci d'avoir accepté mon invitation.
Bonjour.
Alors, votre projet commun est la dépollution maritime, en général, et notamment la pollution par les plastiques. En ce qui me concerne, je suis très sensible à la cause animale, et quand on parle de plastique, la première image qui me vient en tête, ce sont les tortues qui prennent les sacs plastiques pour des méduses et qui finissent par s'étouffer avec. Quels sont les enjeux de la récupération des déchets plastiques ?
Alors, les plastiques, c'est un domaine assez large. Effectivement, on peut penser aux tortues qui s'étouffent avec les sacs plastiques, mais en fait, un macro-déchet, c'est-à-dire une bouteille plastique, un sac plastique, va se dégrader assez vite en microplastique, voire en nanoplastique. Et la problématique, c'est que ces microplastiques emmènent avec eux tout un tas de produits chimiques, d'additifs chimiques qui ont été mis lors de la fabrication de ces plastiques, sont ingérés par, du plancton ou du krill ou des petits poissons, et petit à petit, c'est l'ensemble de la chaîne alimentaire qui est polluée. La problématique de ces additifs chimiques, c'est que souvent, ce sont des perturbateurs endocriniens ou simplement les plastiques peuvent agréger des polluants différents comme les pesticides, les PCB, voire même des bactéries ou des virus, et finalement sont des vecteurs de propagation de ces polluants qui, eux, sont extrêmement nocifs pour la vie en général. Donc c'est un enjeu, je dirais, de santé animale, mais aussi évidemment de santé humaine pour éviter effectivement que tous ces polluants ne nous arrivent au final quand on mange et quand on achète du poisson.
Donc, j'ai une question. Est-ce qu'on peut vraiment dépolluer l'océan, puisque d'une certaine manière, comme vous l'avez dit, les gros plastiques vont se désintégrer en microplastiques ?
Oui, il est illusoire de penser qu'on peut enlever ces microplastiques. Il y en a partout, c'est clair. Ecopol a navigué plus d'un millier de nautiques depuis sa création. Et en fait, on réalise des échantillonnages réguliers de microplastiques. Microplastiques, on va jusqu'à 330 microns, ce sont des protocoles scientifiques de l'IFREMER. Et effectivement, on trouve des microplastiques absolument partout. Et même dernièrement, nous avons été en Antarctique, et même en Antarctique, on trouve des microplastiques. Et donc, il est aussi illusoire de penser qu'on peut nettoyer l'océan, parce que, comme vous l'avez bien dit dans votre introduction, les plastiques, s'ils ne coulent pas au début de leur vie dans la mer, ils ont tendance à couler petit à petit. Pourquoi ? Parce qu'il y a du biofilm, il y a des algues qui se développent autour du plastique qui augmentent leur densité et après se retrouvent dans une espèce de entre deux eaux. Donc, c'est des plastiques qui peuvent naviguer à 5 mètres, 10 mètres, 50 mètres avant de plonger au fond de l'océan. Et donc, il ne faut pas avoir à l'idée d'avoir une sorte de continent de plastique, comme des fois on peut le voir dans certaines photos qui sont là pour nous alarmer. Ce sont des continents qui sont en 3D et il est illusoire de pouvoir avoir des chaluts ou des technologies qui peuvent ramasser plastique à 50 mètres de fond. Par contre, ce qui est absolument possible de faire, outre évidemment d'arrêter d'en utiliser ou de les arrêter à la source, c'est de nettoyer les ports et le littoral. C'est-à-dire qu'il y a des zones d'accumulation où là, effectivement, les technologies, et on va en parler avec l'intelligence artificielle, peuvent nous aider à les détecter et du coup à pouvoir les dépolluer, les collecter plus facilement et plus rapidement.
Très bien, merci pour toutes ces précisions. Effectivement, on n'a pas toujours ce genre de détails concernant le cycle de vie du plastique et les enjeux de dépollution. Alors, une autre pollution marine bien connue, c'est le dégazage dans les ports. Il faut savoir qu'un vidage légal coûte 1 000 euros, contre zéro évidemment s'il est fait de manière frauduleuse, à moins d'être pris en flagrant délit. Et de mémoire, ce flagrant délit s'élève à minimum 3 500 euros, voire plus en fonction du volume déversé. Comment est-ce qu'on arrive, après coup, à dépolluer l'eau ?
C'est compliqué, parce qu'une fois que la pollution est dans l'eau, contrairement à la terre, où une fois qu'il y a une pollution quelque part, qu'elle soit chimique, un camion de chlore qui se renverse, des pollutions plastiques, en général, la pollution plastique elle reste au même endroit. La problématique de la mer, évidemment, c'est qu'elle emmène cette pollution, qu'elle la fragmente, qu'elle la fait naviguer. C'est extrêmement difficile, coûteux et long, voire dangereux, voire impossible en fonction de la météo, de pouvoir récupérer cette pollution. Alors, on la dépollue de façon archi-classique. Hein, c'est en quelque sorte soit des aspirateurs, c'est ce qu'on utilise à Ecopol, des bateaux qui aspirent l'eau, qui la filtrent et qui la stockent, puis ensuite la retraite, ou des chaluts. Donc, par exemple, les gros bâtiments de la Marine nationale ont des gros chaluts tirés par deux remorqueurs et qui viennent encercler, comme un pêcheur, qui viennent encercler les nappes, parce qu'en général, la pollution est de densité inférieure à la densité de l'eau de mer, ça veut dire qu'elle reste en surface, et donc ces chaluts peuvent balayer de façon continue cette pollution pour petit à petit la concentrer, et à ce moment-là, on la récupère à nouveau par des gros aspirateurs. Mais en tout cas, la dépollution marine est extrêmement coûteuse quand on la compare à la dépollution terrestre. Je dirais au moins d'un facteur 10.
D'accord. Et combien dure ce cycle de nettoyage par les...
Ça, tout dépend évidemment du volume. Hein. Un dégazage, je dirais 100 litres vous voyez, de dégazage de yacht, par exemple, ça peut durer 4 heures. Si la météo s'en mêle, c'est-à-dire il y a du vent, il y a des courants, ça fragmente, il faut aller chercher toutes les petites boulettes, là ça peut durer des jours. Sur une pollution plastique, en général elle est très diffuse, donc soit on la prend à la source, c'est-à-dire dans un port, et là je pense qu'en quelques heures il n'y a plus de plastique, soit on ne fait rien, et malheureusement c'est souvent le cas, en disant que finalement le plastique c'est un peu une fatalité, et que c'est pas au port de payer les coûts d'une pollution plastique qui est issue d'autres origines ou d'autres sources, et à ce moment-là, elle s'en va naviguer en mer, et là, je dirais, le temps de dépollution peut être, je sais pas, plusieurs jours, plusieurs semaines.
D'accord. Alors là, vous nous parlez de ce système d'aspirateur, mais pour pouvoir intervenir, il faut avoir détecté ce dégazage. Comment ça se passe ?
Alors, effectivement, c'est un petit peu quand on fait de la voile ou de la planche à voile, en général, on ne lutte pas contre la mer. Et la bonne nouvelle dans ce thème-là par rapport à la Terre, c'est que l'océan va nous aider. L'océan a des phénomènes hydrodynamiques et des phénomènes atmosphériques aussi qui vont nous aider parce qu'ils vont concentrer la pollution à un même endroit. En général, les pollutions se cantonnent dans des espèces de farandoles pour les gens qui naviguent. Et on le voit facilement, hein, la mer n'est jamais absolument homogène, elle est assez hétérogène, il y a comme ça des stries qui sont le long de la mer. Et en général, dans ce qu'on appelle des slicks en termes océanographiques, vous avez des algues, des méduses, des déchets, des macro-déchets, des microplastiques, de l'huile, et tout se concentre là-dedans. Le problème, c'est qu'il faut les détecter. Alors, c'est comme les pêcheurs. C'est-à-dire que quand vous pêchez souvent, vous allez vite avoir des indications. Alors, la mouette s'est posée là, le vent est comme ça, le nuage est comme ça, et tout de suite, vous allez pouvoir vous dire la zone à peu près où on va trouver des déchets. Mais ce n'est pas fiable à 100%. L'avantage d'avoir des technologies maintenant modernes, en particulier à travers l'intelligence artificielle, avant de faire ce projet, en fait, c'est que nous, on a mis en place des drones aériens qui peuvent balayer une zone bien plus large que le visuel du skipper qui est sur le bateau et qui peuvent informer, donner des informations de localisation de ces déchets très rapidement sur une zone très large. Donc, ce qui fait que, on est plus rapide, on va pouvoir aller directement sur la zone à dépolluer. Et deux, du coup, ça permet d'être moins coûteux. Et donc, la problématique de ça, c'est qu'on peut le faire de façon manuelle, mais l'avantage de le faire de façon automatique, c'est évidemment d'être extrêmement plus rapide et plus fiable dans la détection de ces pollutions sur l'eau.
D'accord. Alors là, vous parliez de drones. Pour moi, il me semble que les caméras dont sont équipés les drones, c'est en général du RGB. Ça marche plutôt bien dans la journée, mais voilà, j'imagine que les gens qui vont faire du dégazage frauduleux ne vont pas s'amuser à le faire dans la journée quand on peut le remarquer. Comment ça se passe pour détecter la nuit aussi ?
Alors, c'est une très bonne question et c'est un sujet de R&D. C'est pour ça qu'on a besoin d'un partenaire efficace. Alors, dans ce sujet, vous avez une partie logicielle, software, et puis une partie hardware, matériel. Et il faut réussir à trouver les bons outils software et hardware. Clairement, la nuit, aujourd'hui, on ne travaille pas, sauf pour faire, par exemple, la dépollution après les feux d'artifice, où là, évidemment, on arrive à travailler, mais c'est du visuel. Quand on va vouloir utiliser des caméras pour faire la détection automatique de nuit, en fonction des pollutions, il y a encore du travail au sens de tester les meilleures technologies et derrière tester les meilleurs logiciels qui peuvent détecter ça. On n'en est pas là encore et c'est pour ça qu'on veut lancer ce projet.
Pour rester sur cette thématique de dégazage frauduleux, j'avais remarqué que ce dégazage représentait 300 000 tonnes d'hydrocarbures. Si on arrivait à réduire de moitié ce dégazage frauduleux, qu'est-ce qu'on pourrait observer concrètement dans les années qui viennent ?
On peut dire historiquement que l'ensemble des États a quand même fait un très très fort progrès en fait, dans les dépollutions hydrocarbures. On était à plus de 3 millions de tonnes il y a encore quelques décennies. On est passé à 300 000 tonnes, essentiellement parce que la pollution hydrocarbures est répréhensible au sens pénal. Et donc les amendes et les moyens qui ont été mis en place, hein, le Rideau récent par exemple, qui est connu pratiquement de tout le monde, permet l'espacement des différents navires, donc permet de minimiser les risques de collision, voire les risques de naufrage, ont permis de réduire cela. Le fait d'avoir moins de pollution hydrocarbures, bah, évidemment, ça préserve l'environnement, ça préserve la biodiversité. Pour les plastiques, on n'en est pas là. Une pollution plastique n'est pas du ressort du pénal. Il n'y a même pas de tracking en fait constant. Si vous lâchez 50 litres d'huile en Méditerranée, la préfecture maritime viendra tout de suite être avertie car on a des outils de tracking par satellite. Donc, pour répondre à votre question, on observerait probablement et très très certainement en fait même des améliorations et minimisation du risque du risque de biodiversité attaquée. Et clairement, même les usagers des plages ou les plaisanciers verraient beaucoup moins de plastique et ça serait quand même beaucoup plus agréable. J'étais dans des endroits qui sont magiques, hein, en Corse, et même sur la côte varoise, hein, Lavandou, Porquerolles, et en fait, il n'y a pas 5 minutes ou 10 minutes où on nage, même dans des criques isolées, hein, où il n'y a pas un plastique qui vient accompagner notre médiade. Donc, clairement, je pense que si on arrivait à faire ces dépollutions de façon automatique et qu'on arrive à les prendre à la source, ça serait très probablement arrêté.
Très bien. Là, je vais plutôt m'adresser à Alan, parce qu'en plus de la dépollution marine, il y a aussi tout ce qui est braconnage, en tout cas pêche frauduleuse. J'ai parlé un peu plus tôt déjà de la cause animale. Il me semble, Alan, qu'avec Videtix, Vous travaillez aussi avec le Parc national des Calandes pour surveiller les milieux de reproduction des poissons, puisqu'elles sont censées être interdites à la pêche. Comment est-ce qu'on peut identifier des personnes qui sont en train de pêcher ?
Oui, c'est un projet qui est en cours, justement. En fait, le but, c'est de pouvoir détecter des bateaux qui sont immobiles, puisque justement, les pêcheurs, ils vont poser des nasses ou justement rester longtemps dans une zone. Donc, le but, c'est, nous, de la création vraiment d'une zone virtuelle au sein de l'image qu'on va récolter à partir de la caméra. Et si on détecte un objet donc de type bateau dans cette zone-là, plus de tant de temps, qu'on va définir justement avec les experts métiers, on va pouvoir renvoyer une alerte et après, eux, ils vont pouvoir intervenir sur site si besoin.
D'accord. Alors, on parlait avec Eric de comment on faisait pour capter de manière automatique les zones dégazées. Est-ce que vous utilisez le même genre de caméra pour faire cette détection de pêche abusive ou est-ce que vous avez d'autres technologies ?
Alors, la caméra va légèrement différer puisque là, en fait, on doit détecter des bateaux mais à des distances assez importantes. On va être sur des distances de 1 km, voire un peu plus. Et donc, du coup, il faut une résolution de l'image qui est un peu plus importante que ce qu'on va retrouver, que ce soit sur un drone ou sur les ports. Donc, on va plutôt travailler côté matériel, savoir un matériel qui va pouvoir décoder ce flux-là. Nos algorithmes vont sûrement prendre une dimension en entrée au niveau des images un peu plus importante pour être sûr de pouvoir détecter des bateaux loin, qui vont représenter en fait très peu de pixels hein, sur l'image. Donc il y a une adaptation à faire, mais par contre la méthodologie derrière, ça reste toujours de la détection d'objets, et donc ça va être les mêmes algorithmes et architectures d'algorithmes qu'on va utiliser pour pouvoir faire cette détection d'objets.
Alors, quelles sont les espèces qui se reproduisent dans les calanques et qui sont donc en jeu dans ce projet ?
Alors en fait, il y en a plusieurs de ce qu'on a pu voir avec justement le Parc national des Calanques. C'est que c'est une zone où il y a énormément d'algues qui est vraiment bénéfique pour les poissons. Et en fait, c'est un abri. Donc, il y a vraiment des poissons qui sont là à l'année. Et c'est aussi une zone de reproduction. Donc, il y a vraiment des saisons et des saisonnalités au niveau de certains poissons. Et c'est pour ça qu'il y a un réel intérêt de pouvoir protéger cette zone-là. Donc, en fait, il y en a vraiment beaucoup d'espèces. Je n'ai pas de nom précis en tête à ressortir, mais en tout cas, oui, il y a plein, c'est un réel écosystème qu'il y a autour de cette zone.
Très bien. Alors là, j'ai une question pour faire le lien entre ces deux projets. Est-ce que Ecopol intervient également dans les calanques pour justement dépolluer les plastiques, les éventuels dégazages ?
Alors, une des problématiques des plastiques, je voulais expliquer, c'est ce côté juridique. C'est que la puissance publique et je dirais la population d'une manière générale est maintenant complètement consciente des dangers des pollutions plastiques. Malheureusement, les budgets ne sont pas encore à la hauteur. Et typiquement, sur les parcs marins, que ce soit sur la côte varoise comme Port-Cros ou que ce soit le parc des Calanques, il n'y a pas encore de budget défini pour pouvoir faire cette dépollution. Une des problématiques, c'est que, je vous l'ai expliqué, c'est la pollution marine coûte très cher. Il faut des bateaux qui permettent de... En plus, le parc des Calanques est quand même assez éloigné du port. Et donc, il faut des bateaux qui puissent affronter un petit peu de météo un peu plus difficile, qui soient particulièrement efficaces, avec en plus équipés avec des marins de la marine marchande. On n'est plus du tout dans le thème de la plaisance. Ce qui veut dire une réglementation... En particulier en matière sociale, qui est plus coûteuse que simplement embaucher des skippers pour promener des touristes. Donc, c'est des gens aussi qui sont formés au CEDRE, qui est l'organisme reconnu et compétent en matière de dépollution, qui se trouve à Brest. Et donc, tout ça fait que c'est un ensemble d'outils, et humains et matériels, qui font que la dépollution marine coûte cher. Donc, les responsables des parcs, entre guillemets, prennent leur temps, même quand il est évident que les calanques sont agressées par la proximité de Marseille, hein, qui est quand même pas la ville la plus propre du monde. Même quand c'est évident qu'il y a de la pollution plastique, eh ben, il faut presque du lobbying. Il faut être patient, il faut être convaincu. C'est un métier d'engagement, clairement, pour pouvoir convaincre les responsables de lancer des opérations efficaces. Pas sur une journée, pas sur deux jours, Donc, un des messages, et je m'arrête là, que je voudrais vous passer, c'est que la pollution plastique est une pollution régulière. Pendant qu'on se parle, chaque minute, quand vous dites 8 millions de tonnes par an, mais ce n'est pas 8 millions de tonnes un jour, c'est 8 millions de tonnes à chaque seconde. C'est chaque seconde. Il y a des dizaines de kilos de plastique. Donc, quand vous êtes responsable politique, que ce soit au Vieux-Port, qui est évidemment un port extrêmement urbain et extrêmement sale, c'est bien beau d'être à une association de dire ben, « on va vous nettoyer le port », mais c'est bien beau de le faire le dimanche avec les enfants quand il fait beau, mais il faut le faire le lundi, le mardi, le mercredi, et il faut le faire quand il fait froid, quand il y a du mistral, ou quand il fait chaud. C'est tous les jours. Et donc, cette régularité systématique de nettoyage et de dépollution, ça coûte très cher. Enfin, très cher. Écopole n'est pas nécessairement plus cher que... Il ne faut pas que je dise ça, parce qu'évidemment, on va dire ben non, vous êtes trop cher, mais non, globalement, ça coûte cher. Et c'est sûr que ce sont des budgets conséquents et toute la problématique de ce budget public, puisque la plupart du temps, le littoral est sous responsabilité publique, eh bien, ça prend du temps administrativement pour mettre en place. Mais on est engagé et on pense qu'on arrivera à nos fins.
C'est une belle mission, en tout cas. Alors, pour aborder un côté un peu plus technique, le côté de l'intelligence artificielle, dans ces deux cas d'étude, Alan, ton équipe travaille avec des vidéos, avec des résolutions différentes, de ce que j'ai compris. L'un des enjeux des modèles d'IA que Videtix produit, c'est de faire de la prédiction en temps réel, notamment pour le dégazage, puisque le but, c'est quand même de pouvoir stopper le plus tôt possible ce dégazage et le prendre en charge. De quelle puissance de calcul est-ce que vous avez besoin et pour quelle précision? Et en combien de temps est-ce que le résultat peut être donné?
En effet, on va travailler avec plusieurs résolutions et c'est un de nos objectifs justement chez Videtix, c'est de pouvoir en fait pérenniser les investissements qui ont déjà été effectués par nos clients. Donc on ne va pas remettre en cause le parc de caméras déjà existantes. Donc c'est pour ça qu'on va avoir des caméras avec une grosse résolution, d'autres avec une moyenne résolution, d'années différentes, etc. et de fabricants différents. Donc on veut pérenniser ça. Et ensuite, généralement, le but, c'est d'avoir une efficience entre le coût énergétique que représente justement le calcul de nos algorithmes d'intelligence artificielle. Et donc oui, on va travailler vraiment sur du temps réel, parce qu'il faut alerter les opérateurs de sécurité en temps réel. Il y a énormément de bien aussi à avoir des statistiques en temps réel, quand on parle justement plutôt côté terrestre avec des métropoles, où on va avoir le flux du nombre de véhicules. C'est intéressant de pouvoir en temps réel dire qu'il y a une congestion pour pouvoir réduire la congestion et donc réduire la pollution. Donc le temps réel est important, et souvent dans les papiers de recherche, on s'accorde une grande importance à la précision des algorithmes, mais pas forcément à l'utilisation en production. Et donc nous, chez Videtix, on travaille vraiment sur l'allègement de nos réseaux de neurones pour pouvoir travailler en temps réel et travailler sur des serveurs qui sont à faible consommation, et donc en fait, vu qu'ils ont une faible consommation, ils ont une faible puissance de calcul. Donc il faut vraiment qu'on travaille justement là-dessus pour pouvoir analyser par exemple sur un serveur qui va consommer entre 10 et 15 watts, on va avoir une analyse de 8 flux en temps réel en simultané, et après on a la gamme entre guillemets au-dessus, où là on va consommer 30 watts, mais avec 30 watts on va pouvoir analyser 16 flux en temps réel. Donc c'est vraiment notre expertise est aussi là-dedans, vraiment de pouvoir intégrer nos algorithmes dans des systèmes qui consomment peu et à faible puissance de calcul.
Alors la réduction de la puissance nécessaire est un enjeu évidemment qui commence à nous préoccuper en IA, puisqu'on estime que le secteur du numérique génère plus de gaz à effet de serre que l'aviation. Est-ce que l'embarqué peut contribuer à diminuer cet effet? Et puis, quelles sont les bonnes pratiques qui pourraient être appliquées aux domaines qui n'ont pas besoin forcément de faire de l'embarqué?
La partie justement de faire ça, ce qu'on appelle souvent à l'edge, donc, ou on-premise, donc directement sur site, c'est important pour deux points. Le premier, c'est on traite des données qui sont sensibles, on travaille sur la vidéo. Donc, il faut garder justement cette sensibilité des données et garder ça en local. Il y a pas, généralement, la plupart du temps, on n'a pas de connexion en fait, Internet. C'est vraiment un réseau privé qui est au sein des collectivités, au sein des ports et au sein des bâtiments. Et ensuite, c'est aussi justement pour la consommation, puisque ça n'a pas de sens de streamer, d'envoyer un flux vidéo sur du cloud qui, demande énormément de bandes passantes et du coup consomme énormément. Là où, en fait, on peut faire une analyse en temps réel sur site et renvoyer seulement soit les alertes, soit des statistiques, donc des métadonnées, qui consomment beaucoup moins en termes de bande passante et de consommation énergétique. Donc l'intérêt est vraiment de pouvoir travailler au plus proche de la caméra, au plus proche des flux, et dispatcher seulement les informations utiles. On travaille beaucoup, par exemple, avec des sites isolés, où il n'y a pas forcément une connexion Internet qui est permanente. On est sur de la 4G, sur de la LTE, sur de la 3G. Et en fait, on analyse en temps réel, 24 heures sur 24, mais on renvoie seulement l'alerte quand il le faut.
Je peux compléter le discours d'Alain. Typiquement, effectivement, quand on est sur un bateau, on ne vient pas travailler sur le cloud. On travaille en remote. Et donc, tous les flux vidéo et les analyses que Vitix pourra faire pour nous resteront sur le bateau. Donc, on ne vient pas consommer de la bande passante inutile.
Très bien. Alors, je me pose une petite question au niveau de l'entraînement des modèles. Est-ce que les modèles ont été entraînés sur des données publiques existantes ? Est-ce qu'elles étaient suffisantes ? Est-ce que ces données ont été annotées pour des concours, par exemple, comme ça arrive dans certains domaines de l'intelligence artificielle ? Ou est-ce que ça vous arrive d'utiliser les données de vos clients pour entraîner plus précisément vos modèles suivant une thématique particulière ?
Alors les données, c'est sûr qu'en IA, c'est vraiment l'or, hein, clairement. C'est vraiment ce qui va nous permettre de pouvoir proposer des modèles pertinents. Donc, il y a des bases de données qui existent, mais généralement, les bases de données publiques qu'on va retrouver de recherche sont avec des points de vue pris à hauteur d'homme. Donc, ça va être des appareils photos, des téléphones qui les ont pris. On n'est pas du tout dans le cadre où on est dans la vidéoprotection. On a des caméras qui sont à 4-5 mètres de hauteur. Il va y avoir aussi une déformation de la focale. Et ce qui fait qu'on doit vraiment avoir notre propre dataset et surtout entraîner nos algorithmes à comprendre que, en fait, l'effet un peu, on va dire, banane d'une personne qui est sur les bords de l'image, bah, ça reste une personne. Nous, en tant qu'humains, on le voit très bien, mais l'IA, en fait, elle a appris à extraire des contours et des formes, et du coup, vu que la forme diffère, eh ben, elle devient un peu aveugle. Donc, du coup, le but, c'est de pouvoir réentraîner ça. Et de la même manière, on travaille sur des données qui sont synthétiques, donc on part d'une donnée qui est une réelle donnée, et on utilise des algorithmes qui nous permettent de générer de nouvelles données, et on va travailler surtout sur la condition. Alors je ne sais pas si c'est parce qu'on est dans la région du sud, donc on a souvent des images qui sont de belle qualité avec justement du soleil, mais on a besoin d'avoir des temps de pluie, de la neige, du brouillard, des conditions vraiment, on ne va pas dire extrêmes, mais oui aussi c'est le cas, parce que pour gagner en robustesse. Et c'est extrêmement important. Le plus important de ce qu'on a pu voir et de notre expérience passée, c'est vraiment la diversité. Il vaut mieux avoir 5 minutes, mais de plein d'images, de vraiment diversité de différentes caméras, que 15 heures de film sur un seul point de vue. C'est vraiment l'essentiel, c'est de la diversité pour pouvoir gagner en robustesse et en pertinence sur nos algorithmes.
Est-ce que vous avez des projets avec la Bretagne ?
On est en échange avec des métropoles qui sont plus dans le nord, donc on commence à avoir, on n'a pas de ciré forcément encore, mais on a déjà des coutumes vestimentaires déjà un peu différentes, ou un ciel qui est couvert un peu plus souvent. Mais bon, on ne peut pas dire ça parce que récemment il pleuvait quand même pas mal aussi à Sophie Antipolis, donc on va pas chambrer.
Bien sûr. Avant de conclure cet épisode, qu'est-ce qu'on peut souhaiter à Vidétix et à Ecopol pour les mois qui viennent ?
Alan,
je commence pour Vidétix. On espère justement pouvoir mener à bout ce projet qu'on tient, et c'est vraiment, comme le disait Eric, un engagement, et puis continuer à croître, continuer à créer des algorithmes qui sont pertinents et qui vont soit protéger justement des biens et des personnes, protéger l'environnement, et faire une IA utile, et utiliser, souvent c'est un peu ma phrase slogan, c'est utiliser cette science qui est l'intelligence artificielle vraiment au service de l'homme.
Très bien.
Et concernant Ecopol, je dirais ce qu'on peut souhaiter, c'est surtout souhaiter à l'océan. C'est nous, en fait, notre client, c'est l'océan au final, et donc on agit avec une sorte d'obligation de résultat. C'est la dépollution, elle n'est pas à moitié, elle n'est pas à 80%, elle est à 100%. Donc, ce qu'on peut souhaiter, c'est que la puissance publique prenne en compte cette pollution plastique pour mettre en face des outils, qu'ils soient financiers, humains ou matériels, en adéquation avec cette pollution qui est énorme.
Parfait. Alors, on arrive déjà à la question fil rouge de la saison 4, qui est donc la même pour tous les intervenants de cette saison. On a tous conscience, à mon avis, de l'urgence du respect de l'environnement aujourd'hui, puisque la Terre est notre bateau commun, et si elle coule, nous coulons tous. Alors, quel geste simple, accessible à tous, et pourtant nécessaire, est-ce que vous pourriez nous partager ?
Alors, là, c'est juste tellement simplissime, juste ne rien jeter hors d'une poubelle. C'est tellement évident, c'est tellement ce qu'on nous a appris. Moi, je suis un petit peu le doyen là, de nous trois. Mais voilà, si je jetais un papier gras par terre, je me recevais une gifle de mes parents. Et globalement, aujourd'hui, ce n'est plus du tout le cas. Pour vivre dans le Sud, le nombre de masques chirurgicaux qui sont par terre, on se dit, mais voilà, c'est le bien-vivre et le respect. C'est le respect de soi, le respect des autres et le respect de la planète. Il est juste, il n'existe plus. Donc, ce que je peux dire, simplement le geste simple, ne rien jeter en dehors d'une poubelle.
Je rejoins totalement justement Eric sur ce point-là. Je partirai aussi sur une partie plutôt allez, technique. Je vais rester justement ce qu'on peut souhaiter au tout data scientist et qui est vraiment prendre un recul dessus, c'est que justement tous les entraînements qu'on peut lancer, que ce soit sur le cloud ou aussi dans nos locaux, ça consomme justement, comme tu disais, le numérique prend une part importante de la pollution, de vraiment avoir conscience de ça et de travailler sur vraiment les données les plus pertinentes pour pouvoir améliorer notre réseau neurone et du coup travailler aussi là-dessus. C'est pas la peine, c'est pas parce qu'on a une dataset qui fait 1 million d'images qu'il faut entraîner sur les 1 million. Il y a un intérêt de pouvoir sélectionner les bonnes images qui vont nous amener au même résultat, voire peut-être même meilleur, mais vraiment travailler là-dessus sur, je dirais pas l'esprit un peu frugal, mais c'est aussi l'idée de pouvoir utiliser les bonnes données et seulement les données nécessaires.
Eh bien, merci à tous les deux pour cette participation et toutes ces précisions sur les enjeux de l'IA au service de l'humain et de l'océan. Vous retrouverez les notes de cet épisode sur notre site à l'adresse www.horizon-ia.com/saison4-dépollution-marine tout attaché. Si vous aimez ce podcast, abonnez-vous et laissez-nous un avis sur votre plateforme d'écoute préférée. Cela nous permettra de faire découvrir plus facilement notre podcast. Pour nous contacter, il suffit d'utiliser le formulaire de contact de notre site à l'adresse www.horizon-ia.com. Nous nous ferons un plaisir de vous répondre, bien sûr. Et avant de vous quitter, je vous laisse méditer sur un proverbe chinois en lien avec la thématique de l'eau. L'eau renversée est difficile à rattraper. Je vous souhaite une excellente semaine et à jeudi prochain.